Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ça y est, on respire, nous voilà déconfinés, la fin d'un temps inédit pour chacun d'entre nous qui nous aura probablement marqué. Pour nous aider à en sortir, nous avons fait le choix de nous faire prendre par la main par un homme qui, lui, ne va pas sortir de sitôt, si je puis dire, le père abbé de l'abbaye bénédictine dans Calca, dans le Tarn, près de chez nous. Quoi de mieux qu'un moine, en effet, pour nous aider à relire ce temps et nous donner à la lumière de la parole de Dieu quelques conseils pour en sortir plus sage. Sortir du confinement avec le père abbé de l'abbaye d'Ancalca, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Lourde charge pour vous, frère David d'Amonville. Vous êtes donc prêtre, moine bénédictin et père abbé de cette abbaye, l'abbaye Saint-Benoît d'Ancalca. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci de nous accompagner donc pendant 3 lundis. On va faire une mini-série avec vous. Vous avez entre autres écrit un ouvrage qui s'appelle « Marc, l'histoire d'un choc » paru en octobre dernier aux éditions du Cerf. Marc, c'est donc l'évangéliste. On va parcourir l'évangile selon saint Marc au long de ces émissions, vos commentaires sur certains des textes que l'on a choisis ensemble. Et puis essayer de faire de tout ça, on va dire, une sauce, en tout cas une relecture heureuse pour chacun d'entre nous. Émission donc aussi sur le confinement, émission de relecture de ce temps si particulier pour chacun d'entre nous. On va commencer par faire connaissance avec vous, frère David. Alors vous êtes né en 1954, vous avez donc 65 ans. Avant de rentrer à 32 ans à l'abbaye d'Ancalca, j'ai vu que vous aviez fait des études de lettres classiques et que vous étiez artiste peintre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'homme que vous étiez avant de rentrer au monastère?
Bien sûr, l'homme reste derrière le moine. Le peintre, c'est le plus vieux, c'est celui qui a commencé petit garçon à peindre. Et puis les lettres classiques, c'est venu pendant mon temps d'études, à partir des études secondaires. J'ai beaucoup aimé les langues, et notamment le latin, le grec. Et finalement, le grec, ça m'a amené à l'évangile. Dès que je suis devenu moine, à 30 ans, je me suis aperçu, tiens, mais c'est du grec. Et ça m'a passionné. Le moine commence toujours sa journée par un temps de lectio divina, donc un temps de lecture de l'évangile, lecture de la parole.
Vous disiez que la lectio divina, dans votre quotidien, c'est 2 heures par jour à peu près, c'est ça?
Ça dépend un peu des frères, mais ça ne peut pas être moins d'une heure, et c'est souvent jusqu'à 2 heures ou plus, parce que la parole berce la liturgie, c'est le cœur de la liturgie. Donc 4 heures par jour, quand le moine se réunit avec les autres frères pour prier, qu'est-ce qu'on entend au milieu? Proclamation de la parole de Dieu. Et puis cette parole, c'est aussi une méditation personnelle. C'est ça qu'on appelle la lectio divina, cette méditation personnelle de la parole, un peu impressionnante parce que la Bible, on sait bien, c'est un livre très épais, un très gros livre, mais il a un centre, et le centre, c'est l'évangile.
Donc, études de lettres classiques, donc féru de grec, artiste peintre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Avant d'être moine, pendant en tout cas 5 ans, j'ai essayé de vivre de ma peinture. J'ai toujours peint, j'ai toujours fait des expos, même étudiant, je commençais. Et mon idéal, c'était de devenir peintre à plein temps, d'être libre absolument, de rendre des comptes à personne, d'être un artiste. Et j'ai essayé, et puis je me suis bien cassé la figure, comme c'est normal, parce que la peinture, il n'y a que les 65 premières années qui sont dures, dit le proverbe. Donc... il faut être patient.
Vous êtes rentré donc au monastère, dans cette abbaye. J'ai vu que vous aviez été à la fois successivement cuisinier, chantre, économe, maître verrier dans cette abbaye. Vous avez donc été élu père abbé en 2009. Peut-être en quelques mots, c'est quoi père abbé dans une abbaye bénédictine?
Alors, c'est vraiment une situation très, très spéciale, très particulière. Je dis souvent que c'est le pouce dans la main. C'est-à-dire le seul doigt qui soit capable de faire face aux autres doigts et qui transforme une griffe inintelligente en une main humaine. Il faut qu'il y ait de l'en face, il faut qu'il y ait quelqu'un en face, une altérité forte pour qu'un groupe fonctionne bien. Cette altérité forte dans le groupe bénédictin, c'est le père abbé, c'est-à-dire c'est l'emmerdeur. C'est celui qui est en face et qui vous dit « ça ne va pas être comme vous pensez parce que je suis là ». Et donc, ça, cette altérité comme principe de structuration d'un groupe. Ouais.
L'abbaye dans quelqu'un, en quelques mots, donc il y a 44 frères aujourd'hui, donc c'est une abbaye d'hommes, hein, pas très loin, il y a aussi l'abbaye Sainte-Scolastique, si je ne me trompe pas, une abbaye de femmes, mais là on parle de la vôtre. J'ai vu donc voilà, il y a des activités de, on va dire, d'accueil, il y a une librairie comme souvent, une carterie, mais alors aussi vous faites des sitars, du boom, vous pouvez dire quelques mots de votre travail, puisque les moines bénédictins prient et travaillent,
accueillent beaucoup aussi. Je crois que c'est un pôle important à la fois relationnel et d'évangile, enfin de ministère, de parole, même si les gens que nous accueillons sont d'une très très grande diversité et donc pas forcément des croyants. C'est un peu le propre de l'accueil au monastère, c'est qu'on est vraiment au cœur de l'Église et en même temps on est un petit peu sur la marge et ça permet à des gens qui sont pas très familiers de l'Église de s'approcher.
Quand vous faites des sitars, ça veut dire quoi en fait?
Alors les sitars, c'est une activité qui remonte à 40 ans. Et un frère très ingénieux, le père Patrice, il y a 40 ans justement, s'est mis à essayer d'adapter un instrument folklorique, la sitar, pour l'accompagnement de la liturgie. Il s'apercevait que jouer de l'orgue, ce n'est pas à la portée du premier venu. Et donc, finalement, la sitar, ça permettrait à des gens sans formation musicale, grâce à des accords qui sont tout faits sur la sitar, des arpèges, d'accompagner l'office liturgique. Et donc il a mis ça à profit en créant cet instrument qu'on appelle le psaltérion, qui est une sitar un peu complexe avec tous les accords qui sont...
Et d'ailleurs, si on va chez vous et qu'on suit les offices, c'est souvent accompagné justement de cette...
Oui, à peu près la moitié des offices. Les vigiles, les petites heures sont accompagnées à la sitar, les laudes.
Parlons de... Alors, on parlera peut-être au fur et à mesure de l'émission de la manière dont vous avez vécu ce confinement, un peu plus tard dans l'émission. J'aimerais qu'on présente aussi donc Marc. Alors, Marc, c'est l'évangéliste. Vous lui avez d'une certaine manière consacré un ouvrage. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Marc, l'histoire d'un choc, paru aux éditions du Cerf. C'était à l'automne dernier. C'est un ouvrage, on va dire, conséquent, une longue lectio divina, chapitre par chapitre, passage par passage, même si je ne crois pas que ce soit in extenso. Parlez-nous de Marc. Vous le connaissez donc bien mieux que beaucoup d'entre nous. J'ai lu qu'il était né environ autour de l'année 5. Il serait mort donc autour de l'année 68, ai-je lu. Il est aussi surnommé Jean-Marc. Qui est-il? Quel âge a-t-il peut-être quand il écrit l'Évangile? De quelle famille ou milieu est-il issu?
Alors, si vous permettez, je voudrais donner une précision de plus qui dit pourquoi je me suis intéressé à Marc. Marc, c'est l'inventeur de l'Évangile. Du point de vue de l'histoire des textes, on dit toujours Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc, on a dans la tête que c'est Matthieu, le premier des évangiles. Mais non, Marc est le premier, le plus court, ancien.
C'est celui qui a été écrit en premier, oui.
Voilà, celui qui a été écrit en premier, 20 ans avant les deux autres, 20 ans avant Matthieu et Luc. Et quand Matthieu et Luc vont écrire leur propre évangile d'une richesse inouïe, les évangiles de Matthieu et de Luc ne sont pas moins forts, au contraire, ils débordent complètement Marc, mais ils respectent tellement la lettre de Marc qu'ils gardent absolument sa structure et ils gardent pratiquement la totalité du contenu de Marc.
Il faut peut-être aussi préciser, et j'aurais dû commencer par ça, que Marc n'a pas connu Jésus. C'est un...
Oui. Marc est un jeune qui est dans l'entourage des premiers chrétiens. On le voit paraître au chapitre 12 des Actes des Apôtres. C'est sa première apparition. Et puis au chapitre 13 et 15 des Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'entourage de Pierre, dans l'entourage de Paul. Il va accompagner Paul dans plusieurs des voyages missionnaires et il va faire connaissance de Pierre au point que on l'appellera le secrétaire de Pierre. L'évangile de Marc, c'est le recueil des paroles de Pierre.
Donc le choc, en l'occurrence, c'est d'avoir rencontré Jésus par la médiation de Pierre. Et puis on imagine...
Il me semble que le choc, il est encore plus large que ça. Le choc, c'est un choc. C'est le choc de la passion. C'est le choc de la résurrection de Jésus. Pour tout le groupe qui a suivi Jésus en Galilée, La croix, c'est insoutenable, c'est impensable, c'est incompréhensible au vu de ce qu'ils avaient découvert de la richesse de cet homme Jésus. Pourquoi ça s'est si mal terminé en si peu de temps? Et puis la résurrection, encore plus impensable, la présence de Jésus à leur côté et la naissance de l'Église, la naissance d'un groupe qui sait que Jésus est vivant.
Marc, c'est donc le fils de Marie, Marie de Jérusalem. Il y a un passage donc, dans les Actes des Apôtres quand Pierre sort de prison il a été enfermé par Hérode. Il sort de prison grâce à l'aide d'un ange et il va chez une certaine Marie. Et là, donc, il retrouve Marc, Marie étant la mère de Marc. Est-ce qu'on peut savoir un peu de quel milieu était ce Marc, quel est, entre guillemets, son niveau socioculturel ou son profil sociologique?
Plusieurs indices apparaissent dans ces textes des Actes des Apôtres. Celui d'une famille un peu polyculturelle, ouverte sur l'étranger. Ce nom de Marc n'a rien d'araméen, d'hébreu. Hein. Son nom hébreu, son nom araméen, c'est Jean. Jean-Marc. Mais il a un surnom, Marc, Marcus, c'est un prénom latin, qui dit qu'il y a des liens entre cette famille et peut-être des commerçants et peut-être des gens de l'étranger. Ce sera surtout vrai à la fin de la vie de Marc, puisque Marc s'en ira à Rome avec Pierre et l'évangile de Marc est un évangile adressé à des Romains, à des Latins, à des gens qui vivent en Italie et pas au pays de Jésus.
J'ai lu qu'il avait un temps dirigé la communauté aussi chrétienne de Rome. Après, il aurait été le premier évêque d'Alexandrie aussi en Égypte. Qu'est-ce qu'on peut savoir à peu près de manière...
Le culte atteste que Marc est le saint patron de l'église d'Alexandrie, l'église copte d'aujourd'hui, les Égyptiens, voilà, le vénèrent comme leur fondateur. Marc, c'est le patriarche d'Alexandrie, donc sans doute est-il mort là-bas, à Alexandrie.
Mort martyr d'ailleurs.
Martyr sûrement, mais les traces sont peu précises. Il reste ce culte qui le vénère. Alors on sait que les Vénitiens sont allés rechercher des reliques, ont rapporté à Venise.
La fameuse église Saint-Marc à
voilà,
Venise.
Voilà, c'est ça. Mais ça c'est une autre histoire, c'est déjà le Moyen-Âge. On est très loin de l'origine. L'origine c'est sûrement une famille aisée. On le sait par un petit détail, c'est la grande maison de la maman de Marc, Marie, où se réunissait déjà la première église. Donc une maison où on se réunit, c'est pas n'importe quel petit boui-boui.
À Jérusalem,
avec un portail, avec une servante qui est à la porte pour ouvrir, pour fermer, pour laisser entrer, ce qui suppose une grande maison avec une cour et donc un certain niveau de vie. Et cette Marie, c'est pas la première venue.
Pour finir, avant qu'on fasse une première pause, je vais vous demander quelque part de nous vendre la série. Alors si on commence par Marc, pourquoi est-ce qu'il est intéressant de prendre le temps de relire ce temps de confinement à la lumière de l'évangile selon saint Marc? Dites-nous pourquoi c'est pas tant tiré par les cheveux que ça.
C'est pas tiré par les cheveux parce que Marc a vécu un temps très difficile déjà. Au moment où il rédige son évangile, il est à Rome. Et c'est la persécution romaine, c'est la persécution de ce qu'on appelle les premiers martyrs. Pierre et Paul vont y passer, c'est Néron, c'est les grands spectacles où on enduit de poix brûlante des chrétiens pour les transformer en flambeaux pour éclairer les fêtes de Néron. On est dans un climat de terreur. Et cet évangile a été écrit pour des gens qui sont soumis à un choc, le choc de quelque chose d'imprévu, c'est la première persécution. Je crois que quand on est en état de choc, relire l'Évangile, c'est se donner à soi-même des raisons d'espérer, des raisons de patienter, des possibilités de ressources qui ne sont pas celles de la vie courante.
Alors vous me direz le deuxième, pour continuer à faire l'article, ça serait normalement mon travail, mais on sort du déconfinement et moi je propose quelque part aux auditeurs avec vous de se reconfiner, puisque vous avez quand même une vie bien singulière. Alors que cette vie, il n'y a que vous qui la connaissez, puisque je pense que 99% d'entre nous ne sommes pas moines. Est-ce réellement, tant que ça, une vie confinée d'être moine?
De fait, le confinement... nous a laissé presque dans notre situation habituelle, c'est-à-dire la clôture, Ce mot dit quelque chose comme le confinement, hein, la clôture. Nous sommes stables dans ce lieu qu'est le monastère. On ne passe pas son temps à sortir, à rentrer, à revenir, à aller à droite, à gauche.
Il faut préciser aussi que les bénédictins restent toujours normalement dans le même monastère.
Oui.
De l'entrée jusqu'à la
mort. C'est vrai pour les bénédictins, les trappistes, enfin les moines, ce qu'on appelle habituellement les moines, avec une tradition plus stable en Occident qu'en Orient. Les moines en Orient sont aussi bien des missionnaires, des agents pastoraux, correspondent à toute la diversité des religieux qu'on a chez nous, par exemple des dominicains, des jésuites. En Orient, on appelle ça des moines. Donc le moine, c'est l'ancêtre du religieux. Mais le moine latin, le moine formé par saint Benoît, il est stable dans son lieu, il vit en communauté stable. Et ça, on a trouvé que ça ressemblait au confinement aujourd'hui en le revivant de l'intérieur.
On en parlera justement du confinement puisque c'est le thème sous-jacent à ces trois émissions. Alors plus particulièrement la première auquel on a donné comme sous-titre « De la peur à la confiance ». On partira donc de deux passages de l'évangile selon saint Marc en deuxième et troisième partie de cette émission. La tempête apaisée et Jésus marche sur les eaux. On prendra le temps de parcourir le texte, vous me direz les spécificités de l'évangile de Marc et puis ce que ça vous inspire. Je rappelle le titre de votre livre « Marc, l'histoire d'un choc » paru aux éditions du Cerf. On vous retrouve dans quelques minutes. Sortir du confinement avec le Père Abbé d'Ancalca, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes avec vous, frère David, vous êtes prêtre, moine bénédictin, et donc Père Abbé de cette abbaye Saint-Benoît dans le Tarn, auteur d'un ouvrage intitulé « Marc, l'histoire d'un choc ». Marc, c'est donc l'évangéliste, pour ceux qui n'auraient pas suivi le début de cette émission, livre paru aux éditions du Cerf. Avant de parcourir un premier passage, celui de la tempête apaisée, pour ceux qui veulent suivre avec la Bible dans la main, ça sera donc Marc chapitre 4, versets 35 à 41, 4, 35, 41. Vous aurez le temps de nous le partager au long de cette émission. Le confinement dans votre abbaye, vous disiez tout à l'heure que ça n'a pas trop changé votre quotidien, mais on imagine quand même que les échos du monde arrive avec un écho démultiplié et dans le silence, et puis compte tenu du nombre de personnes qui se tournent vers vous, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire peut-être du vécu de ce confinement ?
Le vécu de ce confinement, c'est vraiment une absence très sensible, parce que même si nous ne bougeons pas, le propre de la vie d'un moine bénédictin, c'est aussi d'être une porte ouverte. Et l'hôtellerie, c'est une réalité tout à fait permanente de notre vie. Et là, l'assemblée est vide. Il n'y a personne aux offices, il n'y a personne à l'hôtellerie, il n'y a personne au repas. Alors que d'habitude, le silence met la présence. Le silence met la présence de ces hôtes qui sont venus prier avec nous, qui nous apportent un écho du monde. Et le moine est un peu une oreille du monde. Nous sommes en prise sur... Nous sommes dans ce monde, on n'est pas ailleurs. On n'est pas là pour être coupé du monde. On est simplement un peu sur le bord et sur la marge. Donc ce temps de confinement, il reste très extraordinaire pour nous, avec aussi ce phénomène de l'information qui fait que au jour le jour, on suit ce qui se passe dans tel pays, dans tel autre, chez nos frères au Burkina, chez nos sœurs dans un monastère qui peut être touché par le virus, les frères de Saint-Benoît-sur-Loire où carrément tout le monastère a été touché, où trois frères sont décédés. Donc on est rejoint aussi par les familles.
Et puis vous lisez la presse quand on va dans votre abbaye. À l'heure du déjeuner, souvent il y a des lectures de la presse pour ceux qui ne sont pas familiers des abbayes. Voilà, vous n'êtes pas du tout. Il y a pas de cloison. Il y a une clôture, mais il y a pas de cloison étanche entre vous et le monde. Alors le premier passage donc de l'Évangile selon saint Marc que l'on va parcourir, c'est donc celui de la tempête apaisée. On part du principe que les auditeurs ne le connaissent pas forcément, pardon pour ceux qui sont des grands familiers de la Lectio Divina, on va pas tout lire. Quelques apôtres sont dans une barque sur le lac de Galilée, si je ne me trompe pas, ou autrement appelé la mer de Galilée, survient une forte bourrasque, les vagues se jettent sur la barque, et puis il y en a un qui dort, et j'ai envie de dire, sans vouloir être trop familier, c'est Jésus, s'ensuit un dialogue entre les apôtres et Jésus sur lequel vous allez revenir. Pour présenter l'histoire, qu'est-ce que vous apporteriez comme complément avant qu'on ne voie les particularités de l'évangéliste Marc ?
Alors le complément, c'est l'image. C'est d'abord prendre la plénitude, prendre toute la force de la situation en question. Et la situation, c'est une situation de confinement, c'est-à-dire qu'une dizaine d'hommes sont dans une barque. La barque, le bateau, c'est un espace fermé, c'est un espace clos. Et ça, c'est la situation du confinement. On l'a vu souligné par l'actualité dès les tout premiers jours. Je crois que c'était un paquebot qui était en rade au Japon, avec des cas à l'intérieur, et les gens ne pouvaient ni sortir, ni rentrer. Enfin, c'était une situation terrible. On l'a vu avec le Charles de Gaulle tout récemment. Confinement, un bateau, c'est une situation particulière. Or, le bateau, dans l'Évangile, c'est tout un symbole. On le sait bien, c'est la barque de l'Église. C'est-à-dire que l'Église elle-même va être considérée comme un lieu d'un certain confinement, peut-être. Un lieu. Pourquoi ? On ne sait pas trop. En tout cas, il y en a un qui dort. Celui qui dort, c'est Jésus.
Et puis, on peut dire aussi qu'une tempête, les tempêtes sur les lacs, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire,
sont très violentes
et très impressionnantes. Oui.
Et c'est la réalité du lac de Tibériade, puisque cette mer de Galilée, qui n'est pas un lac immense, n'empêche que les tempêtes sont très soudaines et très fortes, encore aujourd'hui. C'est remarquable. Donc, la situation de tempête, c'est aussi la vie qu'on vit. C'est cette tempête du virus qui s'est abattue sur le monde et qu'on n'attendait pas et qui a tout changé, qui devient une tempête économique et une tempête sociologique.
Et c'est une expression tempête qui a souvent été utilisée aussi par le pape François, en tout cas, qui est souvent revenue dans sa bouche. Alors après, l'évangéliste Marc, là, on ne peut pas lire in extenso le texte, peut-être qu'on pourra en lire des passages. Vous, en plus, dans votre ouvrage, pour ceux qui le parcourront, vous en avez donné une traduction qui vous est propre. Qu'est-ce que vous voudriez souligner de la particularité de l'évangéliste par rapport à d'autres, ou la particularité de ce passage ?
Ce récit, il nous apprend d'abord que Marc est un homme qui a voyagé en mer, qui a pris le bateau. c'est très typique parce qu'il y a des mots du vocabulaire maritime, du vocabulaire peut-être commerçant. Voyager pour un homme de l'Antiquité, c'est prendre le bateau. Parce qu'il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de train. Le seul moyen de transport un tout petit peu adapté à l'Antiquité, c'est le bateau. Et la mer est le grand espace où l'on voyage pour aller d'un pays à l'autre. C'est le plus court chemin pour aller d'un pays à l'autre. S'il y a une mer entre les deux, ben voilà, on traverse. Et c'est ce que va faire Marc comme missionnaire avec Paul, avec Pierre. Ils vont s'en aller en Asie mineure, ils vont s'en aller à Rome, ils vont s'en aller à Chypre et sans doute à la fin en Égypte. Donc, quand l'Évangile nous présente un bateau comme situation très forte et très récurrente, il nous dit quelque chose de ce qu'est l'Évangile, de ce qu'est le message de Jésus, à savoir, il va y avoir une mission à la clé. Il va falloir bouger.
Alors, dans votre commentaire, vous soulignez bien des choses, mais il y a un premier aspect que vous soulignez, c'est le fait que Jésus ne semble pas très solidaire de la situation pour commencer. Pourquoi est-ce que vous commencez par souligner cela ?
Parce que Jésus dort dans la barque, il dort à l'arrière. Quand on est dans un bateau, l'arrière, c'est là où ça bouge un petit peu moins que devant. Devant, ça chahute terriblement. À l'arrière, c'est un peu plus calme. On nous dit même qu'il a la tête posée sur l'oreiller. Le mot oreiller en grec, c'est le pour la tête. Donc voilà, ça se dit le pour la tête. Donc il dort profond. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est une insulte pour les autres. Qui se tourne vers lui, qui le réveille brusquement, qui lui dit « Mais enfin, ça te fait rien qu'on soit en train de couler ?» C'est vraiment la situation de péril, et Jésus a l'air de s'en fiche complètement, il dort. Alors il y a un précédent biblique qui est important, qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est l'histoire de Jonas. Jonas, dans l'Ancien Testament, un tout petit récit merveilleux qui tient en la moitié d'un chapitre de l'Évangile, très très court, et qui raconte ce prophète qui, pour fuir la présence de Dieu, part en bateau sur la Méditerranée vers Tarsis, et il y a une tempête et il dort dans la cale. Mais c'est tellement insultant pour les autres passagers du bateau qu'il va se faire jeter à la mer. C'est la rançon de celui qui ne veut pas entrer en solidarité avec les autres dans le bateau, c'est qu'on le fiche à la baille, on le met dehors. Donc finalement, c'est ça la situation menace pour Jésus. Si tu t'occupes pas de nous, nous, on va te sortir.
Alors vous commencez justement, enfin, le fond de votre méditation sur ce passage, c'est la tentation de l'exclusion. Pourquoi est-ce que vous avez pris comme fine pointe cette tentation de l'exclusion? Je veux dire par là, je précise ma question, est-ce que c'est dans le fond ce que vous y avez vu, vous avez vu dans ce passage d'Évangile, à la lumière donc de ce temps de confinement, mais aussi ce que vous avez pu lire dans la presse ou les échos que vous avez eus de ce temps de confinement, la tentation de l'exclusion? De prime abord, on a plutôt souligné toutes les solidarités exceptionnelles qui...
Vous avez bien raison de dire que c'est à la lumière du confinement que je refais cette lecture de l'exclusion, car de fait, ça a été plutôt l'objet d'un enseignement pour les frères, d'une méditation partagée sur le site et des choses comme ça. Mais à l'époque où j'écrivais le livre, c'est pas ce qui me paraissait le plus saillant. Mais avec le confinement tel que nous l'avons vécu, il est clair que la tentation d'exclusion, elle s'est vécue par exemple très visiblement quand dans tel immeuble ou dans tel environnement tout à fait ordinaire de la vie, des soignants se sont vus repoussés parce qu'on a eu peur qu'ils nous apportent le virus. C'est des situations qu'on a vues dans la presse. Alors dans le bateau, c'est un petit peu ça. Ou tu es avec nous, ou tu es parfaitement solidaire, ou tu es ailleurs et dehors et une... exclu, quoi, au fond. Qui dit confinement, dit tentation de l'exclusion. Le paradoxe, par exemple, de la vie monastique, la vie d'une communauté fraternelle, chrétienne, c'est que, chacun est ce qu'il est, et il faut tous vivre ensemble jusqu'au bout. Et la grande tentation d'une vie monastique, c'est de dire, mais tous, ils sont très chouettes, mais celui-là, j'en veux pas. Il y en a toujours un qui ne vous revient pas. Il y en a toujours un qui est la bête noire. et qu'on a envie de foutre à la baille, ou de moins de lui dire, mais écoute, va-t'en, si t'es pas heureux ici, va-t'en. Et cette tentation-là, qui n'est pas du tout chimérique, qui est permanente dans le monde monastique, c'est la tentation qui surgit quand on vit dans le confinement. Je crois que chaque famille a pu vivre quelque chose comme ça. Si tu ne te supportes plus ici, mais fiche-nous la paix, fous le camp, laisse-nous au moins, nous, reposer.
Alors, dans ce passage de l'Évangile, et dans votre commentaire, on peut avoir le sentiment qu'en fait, Jésus fait le choix d'assumer la place de celui qui potentiellement peut être exclu.
Ouais.
Et qu'est-ce que ça nous apprend ?
Bah, ça nous apprend quelque chose d'incroyable sur la précarité de Dieu dans notre monde. C'est-à-dire que Dieu dans notre monde, c'est le passager trop silencieux, c'est celui qui dort dans la barque et dont on se dit mais on n'en a pas besoin, il n'a rien à foutre ici. Dieu, on peut le sortir de la barque, ça continuera à marcher exactement comme avant.
Ou alors, qu'est-ce qu'il fait ?
Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Mais on commence par lui dire, mais tu fous rien. Même la prière, c'est toujours des gens qui secouent Dieu en lui disant, mais comment tu vois ce qui se passe dans notre monde et tu ne fais rien ? Et c'est violent. Et la prière est une violence, la prière est une révolte. C'est pas d'abord faire des salam alek en se tournant les uns vers les autres. C'est dire à Dieu, réveille-toi. La prière des psaumes passe son temps à dire ça à Dieu. Réveille-toi.
Donc vous passez une partie de votre vie à dire à Dieu, réveille-toi, et lui assume quelque part, comme dans cette tempête, comme dans cette barque, d'être le désigné exclu ou celui sur qui on va taper en premier.
C'est aussi
qu'est-ce que ça nous dit ?
Alors dans le récit de la tempête apaisée, c'est aussi lui qui apaise la tempête. Qui a la puissance de faire revenir les éléments dans leurs limites habituelles. La mer, le vent, les vagues, tout ça s'apaise. Et à ce moment-là, tout le monde se tourne vers lui et lui dit « Mais qui est-il, celui-là, qui redonne le calme et qui apaise la tempête, à qui le vent et la mer obéissent ?» C'est très... J'aimerais dire un mot de l'obéissance, parce que c'est un mot mal compris dans le monde chrétien, l'obéissance. Dans l'évangile, pas seulement l'évangile de Marc, mais la totalité des évangiles, les quatre évangiles, l'obéissance, c'est très rare. Le mot, on le trouve presque jamais. On ne le trouve qu'avec trois interlocuteurs. Ces trois interlocuteurs, c'est deux qui sont ici, la mer, le vent, lui obéissent. Tiens, la mer et le vent lui obéissent. Et le troisième... C'est Jésus qui dit, si vous aviez un tout petit peu de foi, même ce sycomore vous obéirait et il irait se jeter dans la mer. Donc c'est un arbre. Voilà. Ce sont des éléments. Les obéissants dans l'évangile, ce n'est pas les hommes, c'est les éléments. Ce que font les hommes, ce n'est pas tout à fait de l'obéissance, c'est de l'écoute. Alors, c'est très important parce que je trouve qu'on est dans un monde où l'obéissance a été vraiment trop défigurée. Défiguré par son exercice dans l'Église, où on a transformé l'obéissance en soumission, et aujourd'hui, 98% des gens ne supportent plus ça. Donc il faut rappeler que l'obéissance, c'est pas la même dont on parle dans l'Évangile, et puis celle dont on a fait la caricature dans l'histoire. Et puis la deuxième obéissance qui nous oblige à reposer complètement le problème, c'est l'obéissance politique avec les totalitarismes du XXe siècle. Que ce soit le nazisme, que ce soit le communisme soviétique ou chinois ou albanais, j'en sais rien. Mais la caricature politique de l'obéissance, on a très bien vu à quoi ça aboutit. Ça aboutit au goulag et ça aboutit à la Shoah. C'est-à-dire à des gens comme Eichmann qui ont dit « mais moi j'ai fait qu'obéir ».
Eichmann, c'était donc un des serviteurs, le mot est bien mal choisi, de la solution finale, comme on disait, hein, avec ce fameux livre de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, qui a donc été traduit en justice, et puis en fait, qui disait qu'il était un simple exécutant, et qui a même, je crois, été reconnu presque non coupable, en tout cas. Non,
Hannah Arendt a été la philosophe qui a mis en évidence cette perversion de l'obéissance dans ces systèmes.
Alors si on revient à notre passage de l'Évangile, cette digression faite sur, sur l'obéissance, il y a un point que vous voulez souligner à propos de l'exclusion, c'est que ce que nous dit cette tempête apaisée, ce qu'elle nous dirait pour notre temps de manière encore plus précise, c'est qu'il y a une forme d'interdit pour un chrétien, c'est celui d'exclure. Expliquez-nous.
Oui, je trouve que c'est la grande leçon chrétienne, fraternelle. Une fraternité ouverte, c'est l'histoire que raconte l'Évangile, finalement. Qu'est-ce que fait Jésus ? Il rassemble un certain nombre d'hommes, dont la majorité sont des pécheurs, et il leur dit, ben voilà, vous, c'est le groupe des 12. Alors, ce chiffre 12, c'est le chiffre de la fraternité, c'est les 12 frères, les 12 fils de Jacob, les 12 fils d'Israël. Et ces 12 vont vivre ensemble de façon solidaire. On sait très bien que dans l'histoire, les 12, on les voit paraître dans l'Évangile, mais dès les Actes des Apôtres, c'est fini. Ça explose complètement. On suit un tout petit peu un Jacques et Jean, Pierre, et puis les autres, que sont-ils devenus ? Alors on a des traces plus tardives de culte de saint Thomas, de Matthieu devenu évangéliste, etc. Mais on ne sait pas grand-chose des 12 parce que ce groupe de 12 absolument solidaire, c'est une église idéale qui ne résiste pas à l'histoire, et on le sait très bien avec ce premier des 12 qui casse la baraque, qui est Judas, choisi par Jésus, mais qui va tout faire exploser et tout faire péter. Et la leçon évangélique, c'est si vous arrivez à vivre ensemble sans vous exclure, la vie sera toujours là. Mais si c'est le chassé-croisé, celui-là dehors, rester entre soi, ça, c'est pas l'Église.
Premier motif de relecture, probablement, à la lumière de ce passage, donc la tempête apaisée dans l'Évangile selon saint Marc, l'exclusion. Peut-être même, parfois, avait-on envie de s'auto-exclure à l'occasion de ce temps de confinement, tant on avait du mal à faire face à soi-même. Autre sujet, peut-être, qu'on abordera. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Frère David, je rappelle le titre de votre livre pour ceux qui nous quitteraient, Marc, l'histoire d'un choc, paru aux éditions du Cerf.
Présence sur le plateau du Larzac, 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Sortir du confinement avec le père abbé de l'abbaye d'Ancalca, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Première de trois émissions, puisque frère David, vous allez nous accompagner pendant trois lundis pour cette sortie progressive du confinement. Je rappelle, vous êtes donc prêtre, moine bénédictin et père abbé de cette abbaye, l'abbaye Saint-Benoît, dans le Tarn, au pied de la Montagne Noire. Deuxième passage de l'évangile selon saint Marc que vous avez retenu, que nous avons retenu pour cette première émission intitulée ou sous-titrée « De la peur à la confiance ». C'est un autre passage en mer. Jésus marche sur les eaux. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté dans la Bible de Jérusalem. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce passage, puisqu'on part du principe que tout le monde n'est pas totalement familier des évangiles, Jésus a renvoyé les disciples, leur a dit de monter dans une barque et d'aller vers l'autre rive, vers Bethsaïde. La nuit avance. Et tout d'un coup, il voit un homme marcher à leur rencontre qui marche sur l'eau. Ils sont saisis de frayeur, on peut imaginer pourquoi, et s'ensuit donc un dialogue entre les apôtres et Jésus. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage, un deuxième passage sur la mer en l'occurrence, puisque c'est comme ça qu'on appelle le lac de Tibériade?
Alors, la situation est complètement miroir par rapport à la précédente. On a toujours la barque avec les 12 qui sont dedans, ou les 12 ou les 10, on ne sait pas très bien combien ils sont. Enfin, il y a le groupe qui est dans la barque. La première fois, Jésus était dans la barque. Et la tentation, c'était l'exclusion. Tu t'intéresses pas à ce qui se passe, on va couler, on te fiche dehors. Maintenant, c'est exactement la situation reflet. C'est-à-dire, ils sont tous toujours dans la barque, mais Jésus est dehors. Et Jésus va entrer dans la barque. Mais ils ont peur, donc ils ne le laissent pas entrer. Hein, ils commencent par avoir une trouille bleue, mais qui c'est celui-là? C'est un fantôme, on ne veut pas le laisser, on ne veut pas qu'il s'approche. Alors c'est une deuxième modalité de la présence de Jésus par rapport aux 12, c'est est-ce qu'il va entrer plus loin? Il va entrer dans le groupe. C'est la situation de confinement où finalement... jusqu'à présent, on voulait fiche dehors celui qui était dedans, mais on ne veut pas que quelqu'un de dehors entre, parce qu'il va peut-être nous apporter le virus. Celui de dehors est dangereux, et il nous fait peur. C'est exactement la situation dans la barque. Jésus est dehors, et il nous fait peur, et on ne veut pas le laisser rentrer. Mais finalement, Jésus rentre, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, hop, on arrive à destination. Seulement, on n'est pas à Bethsaïde, on est à Génézareth. C'est-à-dire que le fait de laisser rentrer quelqu'un dans la barque...
On a changé de cap.
On a changé de cap.
Alors on y reviendra après, si ça ne vous embête pas. Qu'est-ce qui permet aux apôtres de laisser rentrer Jésus?
Alors c'est un petit talisman, on peut dire, c'est la parole de Jésus. C'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. Cette parole, elle vient de très loin dans la Bible, parce que ce « c'est moi » en grec, c'est « ego eimi », c'est ce que dit Dieu quand il se présente dans la Bible, au livre d'Isaïe, au chapitre 43, mais c'est le même qui dit « je suis » quand il se présente à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis celui qui est, je suis celui qui suis, je suis ». Alors on peut le traduire « c'est moi », on peut le traduire « je suis », mais... Finalement, Jésus qui se présente donne une espèce de talisman, je ne sais pas comment le dire, c'est sa parole. Au fond, accueillir Jésus, pour nous aujourd'hui, on n'a plus la barque, on n'est pas des pêcheurs, on n'est pas en Galilée, mais on a sa parole. Et sa parole, c'est cette parole qui va pénétrer nos vies, qui va transformer nos vies, qui va nous faire changer de cap, et c'est ça qui nous rendra chrétiens finalement. D'avoir accepté de cheminer, non pas tout seul, mais avec ce Jésus dans notre vie.
Ça veut dire qu'on ne peut sortir de la peur, fondamentalement, à vous entendre, quand on est chrétien, que parce qu'à un moment, on entend ce « c'est moi » et on l'entend vraiment?
Je crois. C'est l'expérience de la foi. L'expérience de la foi, c'est une parole entendue, une parole écoutée. Foi, c'est croire. C'est dire en hébreu « Amen ». « Amen », ça veut dire « je crois, je te fais confiance ». c'est faire confiance. Cette attitude de la confiance, c'est la seule qui permette de sortir positivement du confinement, à savoir j'accepte, je consens à ne plus avoir peur de l'autre, à le laisser m'approcher, à moi-même m'approcher de l'autre. C'est cette situation-là, elle est très quotidienne aujourd'hui. Il me semble qu'elle va être très forte avec les jours de déconfinement qui commencent.
Et pourquoi est-ce qu'à partir du moment où on a reconnu Dieu, on l'a accueilli, à vous entendre, par la médiation donc de sa parole, on a entendu un moment ce « c'est moi » que vous avez prononcé avec force. Pourquoi est-ce que notre rapport aux autres peut être radicalement changé? Qu'est-ce que vous diriez au regard de votre expérience monastique?
J'aime bien les mots de Dietrich Bonhoeffer, ce pasteur protestant de la guerre de 40, qui a été courageux, une sorte de martyr à sa façon, qui disait « Entre l'autre et moi, toujours le Christ s'interpose ». C'est-à-dire que le Christ, c'est vraiment cette présence de Dieu qui surgit quand je suis en face d'un autre, d'une autre. Dès qu'il y a altérité de deux personnes humaines, la foi, c'est considérer que le Christ est là, qu'il y a un tiers, que je ne suis pas tout seul bloqué dans mon rapport à l'autre. Non, il y a un tiers, même si je ne l'entends pas, il dort dans ma barque ou quelque chose comme ça, mais il est là. C'est la présence de Dieu.
Et qu'est-ce qui change?
Il change que justement, je ne vais pas aller exactement là où je croyais. Je vais changer de cap. Parce que ça va me dériver d'avoir cet homme-là dans ma barque. Ça va me faire dériver. Ça va me permettre sans doute d'écouter l'autre avec une oreille ouverte. Et c'est ça le changement de cap. C'est que le projet de l'autre, ben, il n'est pas d'abord menaçant pour moi. Il est aussi une promesse.
Alors vous soulignez un petit peu plus loin, en tout cas si on suit la suite du récit donc de ce passage dans l'Évangile selon saint Marc, pardon j'ai oublié de le dire, c'est donc chapitre 6, versets 47 à 52. Dans la Bible de Jérusalem, on peut lire « Puis il monta auprès d'eux dans la barque, et le vent tomba, comme dans la tempête apaisée. Et ils étaient intérieurement au comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, cela fait référence donc à la multiplication des pains qui précède ce passage, mais leur esprit était bouché. Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth, donc on a bien compris qu'ils ont changé de cap. Vous soulignez donc deux choses, c'est que les apôtres en fait restent intérieurement bloqués, et après donc ils arrivent là où ils n'étaient pas. Le fait qu'il reste intérieurement bloqué, bon, quelque part, ça nous aide à nous dire qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Quel commentaire vous ajouteriez à ils étaient encore pris dans leur stupeur, quelque part.
Ouais, c'est un thème que j'ai voulu creuser. C'est peut-être le thème principal de mon livre sur Marc, c'est le choc, l'histoire d'un choc, parce que le chrétien qui voudrait être seulement rassuré, seulement coucouné, il va jamais s'y retrouver dans l'Évangile. L'Évangile, c'est accepter un choc puissant, le choc de la croix, le choc de la résurrection. C'est un seul et même choc. Mais la rencontre de Jésus n'a pas été de tout repos. Tout l'Évangile de Marc, c'est très frappant. Jésus prend les apôtres à rebrousse-poil. Et il prend les scribes à rebrousse-poil, et il prend les grands prêtres à rebrousse-poil. Jésus est quelqu'un de choquant, et quelqu'un qui a surpris, à la fois fascinant, très attachant, sûrement, merveilleux, mais rien d'une douceur mollasse, quoi. On est dans un autre monde. Le choc, c'est finalement un choc si fort qu'il faudra, il faudra 20 ans pour passer à l'écrit l'histoire de Jésus. Parce qu'après la résurrection, mais on a tellement été éreinté par la vie qu'on ne sait pas où on est. Ben après le confinement, on en est un peu là. Et qu'est-ce qui va? Ben non, on n'a pas d'assurance. Il va falloir marcher dans un certain brouillard. Je pense que le christianisme, il est fait pour ces situations-là où on a besoin de savoir qu'on est accompagné quand même si on est en état de choc.
Frère David, une question sur la Lectio Divina à la fin de cette émission. Un petit conseil pour entrer dans cette habitude de la Lectio Divina, qui est donc une habitude de la vie monastique, à laquelle vous nous initiez indirectement à l'occasion de cette émission. C'est pas toujours pour les chrétiens que nous sommes, c'est souvent, ou chrétiens que nous sommes pas, peut-être pour certains auditeurs, c'est déjà difficile de trouver du temps. Alors la Lectio Divina, ça peut paraître être un mot bien compliqué, un horizon indépassable. Est-ce que vous auriez un conseil pour nous aider à rentrer dedans?
Volontiers. Le premier conseil, c'est justement de ne pas en faire d'abord une histoire de quantité. On entre dans la Lectio Divina si on y entre comme on goûte l'eau en trempant le petit doigt. C'est-à-dire que même si on se dit, tiens, chaque jour, je vais lire une phrase de l'évangile du jour, on aura commencé la mécanique de la Lectio Divina. Il ne faut pas se dire, je vais faire une heure, on n'y tiendra pas. Il ne faut pas se dire, je vais faire un quart d'heure, c'est beaucoup trop long. Il faut oser dire, je voudrais lire aujourd'hui un mot de la bouche de Jésus. Et de le faire tous les jours, parce que on connaît l'image de la petite goutte, hein, la stalagmite et la stalactite, la petite goutte qui tombe sur une pierre, finit par la creuser inexorablement. Pourtant, c'est qu'une petite goutte d'eau qui n'a aucune force. Oui, mais en tombant toujours sur le cœur dur de la pierre, voilà, elle finit par l'user. La Lectio, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est une petite goutte. Et c'est la régularité qui va être complètement transformante. Mon conseil, c'est de dire quel est votre moment clé dans la journée où vraiment vous ouvrez simplement l'évangile pour prendre un mot, même si vous le refermez aussitôt. Si vous avez pris cette discipline-là, de un mot, on passera à trois, à une phrase, à l'évangile du jour. Et puis petit à petit, il va y avoir quelque chose d'extraordinairement puissant dans cette relation avec Jésus qui parle.
Merci frère David. Rendez-vous est donc pris pour lundi prochain. Vous nous accompagnerez à nouveau. On continuera de sortir du confinement avec vous. Le thème ou le sous-titre de l'émission de lundi prochain, ça sera de l'isolement à la prière. Probablement que beaucoup d'entre nous ont eu du temps pour prier. Peut-être certains ont crié vers Dieu pour la première fois ou davantage. Et puis, on ne sort pas d'un temps comme ça de confinement et de solitude quand on est chrétien sans question probablement autour de la prière. Ça sera l'occasion d'en parler avec vous. Je rappelle le titre de votre livre, Marc, l'histoire d'un choc, paru aux éditions du Cerf. Je vous dis donc à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.